dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Merci d'être à l'écoute. Bonjour à tous, bienvenue sur France Bleu. Dans le rétro, c'est votre rendez-vous du week-end. Une petite parenthèse pendant laquelle on voyage dans le temps. Chaque semaine, un invité nous accompagne et on revient sur les moments clés de sa vie, de sa carrière. Aujourd'hui, c'est un humoriste, acteur, réalisateur. Ses amis ou collègues disent de lui qu'il est généreux, travailleur et que c'est un très grand acteur pour toi. Public. Voici Franck Dubosc. Bonjour Franck.
Bonjour.
Je le tiens bien le pour toi public, non?
Pour toi public.
Pour le, toi public.
Non, faut le public, le C de public, faut public.
Pour toi public.
C'est
pour toi public.
Voilà.
Après une tournée triomphale à travers toute la France, vous êtes en ce moment au Palais des Sports à Paris pour votre spectacle 50-50. À 50 balais, le plus dur, c'est que t'es un vieux pour les jeunes et t'es un jeune pour les vieux, t'es 50-50, mi-figue, mi-raisin, sec pour le coup.
Voilà.
Tout est résumé. Vos 50 ans, vous les avez eus en 2013. Je regardais, il vous a donc fallu 5 ans pour les assumer et en faire un spectacle sans complexe en 2018.
Pour les digérer. Chacun de mes spectacles, il m'a fallu du temps avant de pouvoir en parler ou moins en rire, quoi.
Ouais, c'est un spectacle bien monté.
Oui, il me ressemble.
Vous êtes moins planqué aussi derrière vos personnages.
Oui, c'est moins ça. C'est plus moi maintenant qui parle, plus Franck. Oui, il me ressemble plus.
Vous passez en revue votre vie. Vous parlez donc forcément sur scène de la paternité. Comment faire les enfants, par exemple, à l'époque, le plus jeune de vos garçons savait déjà comment faire, visiblement.
J'ai dit aux grands comment il fallait faire, mais au petit, qui a 5 ans et demi, je ne lui ai pas dit. Mais il est revenu un jour en nous disant qu'il fallait se servir de ses pesticules. Ah, il sait pas bien comment, il sait qu'il faut les poser quelque part. À un moment donné, le pesticule gonfle. Et au moment où le pesticule a bien gonflé, il explose, il jette des graines d'enfant. Et ce moment, selon mon fils, s'appellerait la jactation. Donc j'en parle sur scène où je dis, moi, je reprends ma part en disant, attention, si vous croisez un pesticule abandonné sur le quai d'une gare, vigilance, plan zizi pirate. Et je parle des mots d'enfants qui sont formidables. Et moi, on en a tous. Je me suis fait engueuler par mon fils. Il est fan de Mbappé, qui voudrait se faire appeler M. Dubosc. Mais il me reproche, pourquoi je suis pas noir? Et je vais demander à ta mère, j'en sais rien, moi, je sais pas. Mais ce qui est formidable dans les générations de nos enfants, d'ailleurs, parce que je pense qu'on aura à terme des enfants qui seront beaucoup moins racistes, beaucoup moins, et qui seront beaucoup plus ouverts sur tous les autres. Et ça, j'en suis content parce qu'ils vivent, ils ont des héros de toutes les cultures, de toutes les races, de toutes les nationalités, de toutes les couleurs. Ils sont beaucoup plus ouverts. Tout ça est très normal pour eux. L'autre jour, on avait un couple d'amis homosexuels, mais sans que ça se voit, les enfants. Voilà, pour eux, c'était deux messieurs qui étaient là. Et puis le soir, il parle d'un des messieurs, dit « Oui, tu sais, le fiancé de Jean-Pierre ?» Il avait compris, il n'avait pas besoin. Pour lui, c'était tout à fait normal. Alors que nous autres, même en adultes, on serait dit « Ils ne seraient pas ensemble, les deux, là ?» Et eux ont une normalité des choses qui fait plaisir à voir.
Vous avez donc plus de 50 ans. Vous avez donc plus de 50 ans.
Ta gueule !
Avoir 50 ans, vous aimez ça ?
Non. Non, bien sûr que non, j'aime pas ça. Moi, c'est 40 ans. Mais attention, pas 39, pas 41, 40.
40.
Ouais, 40.
Pourquoi ? Il y a une raison particulière ?
Je sais pas. Même mes performances sexuelles ont été dans l'année de mes 40 ans.
Ah ouais, c'est venu assez tard donc. Pardon.
Ta gueule, ta gueule. Et non, mais mes performances, attends, j'étais peut-être extraordinaire avant, et ça a été doublement extraordinaire.
Le Nirvana ensuite.
Et puis on a pris les Sherpas, puis on est redescendu. Là, c'est pas un spectacle sur les 50 ans, hein. C'est le mien, c'est moi à ce moment donné de ma vie, voilà.
50-50, c'est donc au Palais des Sports de Paris jusqu'au 14 avril. Franck Dubosc, on va remonter le temps grâce à ce bouton, vous voyez, en appuyant dessus, vous enclenchez la télétransportation, allez-y. Nous sommes le 7 novembre 1963, vous naissez en Seine-Maritime et vous grandissez au Grand Quevilly, près de Rouen. Votre père, Lucien, travaille à la douane. Votre mère, Janine, est fonctionnaire à la mairie. Vous habitez en HLM. Vous dites qu'enfant, adolescent, vous avez toujours vécu dans le drame.
Non, oui, dans le drame. Dans la maladie, dans... Le chômage, dans tout ça, oui. Comme beaucoup, hein, je ne vais pas m'en plaindre, c'est pas Cosette. Hein.
Il y a quelque chose qui est frappant quand vous racontez un petit peu votre histoire, c'est que vous parlez de votre papa que vous avez vu heureux, très rarement heureux au moment du départ,
en vacances
pour aller au camping, et vous l'avez vu apaisé quand il est décédé, en fait.
Oui, vous avez vraiment potassé mon histoire. Non, en fait, mon père, on partait 3 semaines en vacances, et le soir, quand il arrivait du travail pour mettre la caravane sur la voiture, pour partir, on roulait de nuit, là, tout à coup, je lui découvrais un sourire que j'avais oublié dans l'année.
Que vous aviez oublié ou que vous n'aviez pas vu dans l'année?
Non, chaque année, ça repartait. Non, dans l'année, il n'existait pas ce sourire. Non. Et puis, quand arrivait le dernier jour des vacances, il raccrochait la caravane sur la voiture et c'est ce que je disais, il raccrochait son sourire aussi sur le...
Pourquoi?
Je sais pas, parce que c'était la dureté de la vie, la sévérité de la vie, tout ça, c'est tout le poids de la vie sur ses épaules. C'est quelqu'un qui avait qui a eu beaucoup de soucis aussi dans sa vie, voilà. Et donc ça, il n'a jamais eu de chance. D'ailleurs, sur scène maintenant, j'ai rajouté un truc à la fin. J'écris une lettre à l'adolescent de 15 ans que j'étais, je parle de mon père, où je dis à l'adolescent que j'étais, dis à papa que la voiture dont il a tant rêvé, eh ben il l'aura jamais, mais toi tu la conduiras pour lui. Et ça, c'est ce qui est vrai d'ailleurs, parce que moi j'en ai des belles voitures, j'ai la chance d'avoir des belles voitures, il rêvait de belles voitures, sa plus belle voiture c'était une Ford Tonus, et parfois je me dis, merde, qu'est-ce qu'il aurait dit de mes voitures? Est-ce qu'il serait monté dedans? Et puis maintenant, et sur son lit de mort, oui, j'avais jamais vu, mais quand on voit un mort, c'est le visage n'est pas le même en fait. C'est là que j'ai découvert, je me suis dit, tiens, c'est marrant, on croirait un personnage de cire, donc le visage est apaisé, et là, pour la première fois de ma vie, je l'ai vu apaisé. C'est marrant, hein ?
Franck Dubosc, on se retrouve dans un instant, on va s'écouter tout de suite Sacha Distel, ça vous parle ? Franck Dubosc, on va écouter un titre, je pense qu'il vous fait penser à votre père d'ailleurs, Sacha Distel.
C'est Camping ?
Ouais.
C'est dans Camping 1. Mmh. Oh, la belle vie ! Oui, bien sûr, ça me parle.
Sacha Distel, La belle vie sur France Bleu.
France Bleu. Sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie. On est seul, on est libre et on traîne. On s'amuse à passer sans peur du lendemain. Des nuits blanches qui se penchent sur les petits matins. Mais la belle vie, sans amour, sans soucis, sans problème. Oui, la belle vie, on s'en lasse, on est triste. Et on traîne. Alors pense que je t'aime. Et quand tu auras compris, réveille-toi, je serai là.
Sacha Distel, La belle vie à l'instant sur France Bleu, dans le rétro, la suite de notre voyage dans le temps avec Franck Dubosc.
Dans le rétro.
Bienvenue
dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Une enfance et une adolescence pas forcément toujours faciles, mais en tout cas vous avez grandi heureux. À l'école, vous êtes plutôt timide, souvent dans la lune, vous n'avez pas trop confiance en vous. Vous allez surtout vous épanouir après le bac, quand vous entrez au conservatoire de Rouen. Ça y est, les portes de la comédie s'ouvrent à vous, on allume l'autoradio tout de suite.
Da Giulietta e Romeo. Ti accorgi che puoi.
Après avoir piloté le vaisseau des frères Bogdanov à la télé pour Temps X, vous décrochez donc votre premier rôle dans ce film, À nous les garçons. Vous avez trouvé votre voix à ce moment-là, là vous vous êtes dit, ça y est, je...
Non. Beaucoup d'autres me disaient, ça y est, tu fais du cinéma. J'ai dit non, ouais. C'est pas parce que je fais un film que je fais que c'est lancé. La
vous
preuve
en
d'ailleurs,
aviez
parce
conscience.
Il a fallu ramer derrière encore. Mais ma voix, j'ai cru la trouver dès le début en fait, avant ça. J'ai toujours eu l'impression de travailler. Je vivais de projets. Je vivais de projets.
Oui, mais
qui
on
se
peut
réalisaient
pas vivre. Voilà, on peut pas vivre quand on a juste des projets. C'est pas ça qui nous fait manger. C'est pas ça qui nous fait vivre, quoi.
Mais moi, ça me faisait vivre les projets. Je vivais
d'espoir. Mais financièrement.
Financièrement, je mettais de côté. Je me rappelle même qu'il y a une année où j'ai vécu pendant 18 mois avec 2500 francs. 1500, ça fait 100 euros. On doit parler de 180 euros.
Ouais.
Je calculais chaque centime, je rentrais le soir. Puis si j'avais acheté un paquet de cigarettes, à l'époque je fumais, et puis un café, j'écrivais, ça fait tant. Et à la fin du mois, il fallait que ça fasse une somme, et si le mois d'après, la somme était plus importante, il fallait que ça fasse une moyenne. Je faisais attention, mais je vivais bien.
Vous continuerez de tourner pour la télé avec même une série en Angleterre. Ça y est, vous avez enfin le sentiment d'exister à ce moment-là. À quel moment vous avez le sentiment
d'exister dans le métier
vraiment, ouais.
Oh là là, tard. Non, très tard.
Ah ouais.
Le sentiment d'exister, il est venu vers 2002. La notoriété avec mon nom, elle est venue avec Laurent Ruquier quand j'ai fait On a tout essayé, l'émission, On a tout essayé.
Quand est-ce qu'on se dit qu'on existe vraiment en fait?
Jamais. Le jour où je me suis dit que j'existais, c'est quand j'ai perdu mon père, on en parlait. Il n'y a plus personne derrière, quoi. Vous voyez, qui nous retient. On devient un homme quand on perd notre père. C'est vrai, hein, même si je vivais pas à la maison avec ma mère, mais c'est on devient le descendant. C'est là où je me suis senti exister. C'est pas avec le métier que je me suis senti exister, jamais.
On va se télétransporter à nouveau, Franck Dubosc. On va ouvrir cette porte tout de suite.
Ah, oh, vous me faites chier! Qu'est-ce que vous faites là? Dehors!
Non, vaut mieux pas. 1994, nous sommes au Café du Trésor. Vous êtes là sur un espèce de cube qui sert de scène au fond de la salle. Vous faites des vannes, vous jouez un aventurier mythomane. C'est du stand-up, hein, finalement, que vous faites. À la fin, une fille vous dit « J'ai adoré ce que vous avez fait ».
Je me suis dit « Mais c'est ça que je veux entendre. C'est pas « Je vous ai reconnu » ou… » C'était ça. Et je me suis dit « Attends, il y en a une, il va y en avoir deux, trois, quatre, et puis cinq, et puis je veux les multiplier ». Je veux faire une armée de gens qui me diront « j'ai aimé ce que vous avez fait ». Voilà. Et puis après, j'ai continué. Ça m'a donné vraiment motivé pour continuer.
Et quand les gens vous disent « ce que vous faites, c'est de la merde », ça arrive aussi, j'imagine.
Mais c'est arrivé.
C'est un moteur pour vous.
Non, c'est pas un moteur. Non, c'est pas un moteur. On pourrait dire ça pour se venger de ceux qui disent ça. Non, c'est pas un moteur. Ça fait toujours du mal. Hein. Ça fait toujours du mal, mais souvent… Force est de constater que ceux qui vous disent ça ne vous connaissent pas vraiment. Moi, je me souviens d'un mec, on était à Brest. Je marche dans la rue et il y a un mec qui me croise, qui me dit « j'aime pas ce que tu fais ». C'est très gênant dans la rue. Non mais, vous voyez, je lui dis « vous avez vu déjà ce que je faisais ?» Il fait « non, mais je connais là, la télé, tout ça ». Je dis « écoutez, je joue ce soir. Est-ce que vous voulez venir voir le spectacle ?» Je sais pas, je vous donne deux places. Vous venez avec votre fiancé, votre ami, qui vous voulez. Et vous venez ce soir. Il est venu le soir et il m'a attendu à la fin pour me dire « je suis désolé, je me suis trompé ». Ce qui ne veut pas dire que tout le monde, tous ceux qui pensent que c'est de la merde ce que je fais, se tromperaient. Donc il y a des choses qu'on peut ne pas aimer. Bon, il y a des choses que j'aime pas, des choses que je fais que je n'aime pas.
Mais faites gaffe, parce que là, ce que vous venez de dire, maintenant les gens vont vous croiser dans la rue, ils vont vous dire « j'aime pas ce que tu fais pour gratter des places ».
Voilà, il faut qu'ils disent derrière France Bleu.
Allez, on repart.
Bonjour, je suis Jean-Louis Connard.
Salut, je suis Jean-Marie Verge.
Bonjour, je suis Jean-Louis Connard.
Bonjour, je m'appelle Jean-Marie Verge.
Et Jean-Pierre Testicule.
Nous sommes en 1995, vous tournez les petites annonces avec Élie Semoun. Ça vous manque pas les petites annonces?
Oui, c'était drôle, on en a. Élie a souvent voulu en refaire.
Ouais.
Qui dit qu'un jour. Mais d'abord. Il y a une première chose. Alors, maintenant, on pourrait en réécrire et ça sonnerait un peu pareil. Il faut pas oublier que c'est un principe de DVD qui ne se vendent plus, qui n'existent plus vraiment. C'est plus rentable.
Non, mais ça pourrait exister sur le web, ça, des choses
pourrait
comme
exister.
Ça.
On pourrait le faire sur le web. Ouais. Oui, ça pourrait exister sur le web. Maintenant, il faut du temps pour les écrire. Faut du temps. Ça pourrait se faire. Je sais qu'Élie, souvent, a voulu relancer la machine. Et puis moi, j'étais pas forcément. C'est pas que j'étais pas d'accord, mais pas forcément partant, parce que par le manque de temps.
Après les petites annonces, vous jouerez votre premier one-man show, du beau, du bon, du Bosc. Vous en êtes aujourd'hui à votre 6e seule enseigne. Il y aura aussi le cinéma. Dans le rétro, on revient dans un instant avec Franck Dubosc sur France Bleu. France Bleu. écoutez France Bleu. Il est à Paris au Palais des Sports en ce moment pour son spectacle 50-50. Franck Dubosc est notre invité dans le rétro.
Dans le rétro.
Attachez votre ceinture.
Déborah Grunwald.
Franck Dubosc, donc votre popularité vous permet de revenir au cinéma. Camping 1, 2 et 3, Disco, Incognito, Cinéman, Boule et Bill, Les Têtes de l'Emploi, All Inclusive. On remarque que les réalisateurs qui ont bossé avec vous vous redemandent. On pense à Eric Laven, à Fabien Antoniente, à Pascal Bourdiot.
Dominique Farrugia aussi.
Dominique Farrugia aussi, exactement. Ils ont trouvé la poule aux œufs d'or, selon vous ?
Non, je pense que c'est parce qu'on s'entend bien. C'est parce que ils arrivent à faire de moi ce qu'ils veulent. Peut-être que je suis un bon acteur pour eux.
Et pas
mais
pour les autres.
C'est vrai que non, mais parce que les autres, faut qu'ils m'essayent. Quand on m'essaye, on m'adopte. Mais c'est vrai que quand on regarde, c'est même flatteur pour moi de voir que des metteurs en scène m'ont embauché tellement de fois. Mais le fait qu'ils m'ont embauché tellement de fois a aussi enlevé du temps aux autres pour pouvoir me demander de me proposer des films.
C'est vrai. Bah du coup, la prochaine fois, il faudra refuser avec certains pour tourner avec d'autres.
Oui, parce que je sais que même il y a encore des projets avec. Certains des mêmes,
ah ouais.
On parle de Dominique Farrugia, Eric Laven. Il y a des projets encore forcément, alors faut laisser la place à d'autres réalisateurs.
On va regarder dans le rétro, quand vous regardez votre reflet dans le miroir de ce rétroviseur, qu'est-ce que votre image vous renvoie ?
Les phares de la voiture derrière.
Oh, bien joué !
Moi, je me suis jamais aimé. Alors physiquement, ça c'est sûr, donc mon image me renvoie pas grand-chose, très franchement. Elle me renvoie un mec qui vieillit, donc je me regarde de moins en moins, sauf quand je suis en vacances un peu bronzé, ça me rassure. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours essayé de me faire aimer par le plus grand nombre. J'ai compris que c'était pas possible par le plus grand nombre. Et puis là, je me suis dit, et si je commençais à essayer de m'aimer moi-même, de me plaire à moi. J'ai 55 ans, j'ai tout fait pour essayer de plaire aux autres. J'ai réussi pour certains, je suis passé à côté pour d'autres. Mais moi, je me suis jamais occupé de moi.
Franck Dubosc, vous êtes un vrai gentil, quelqu'un de très sensible. Vous donnez beaucoup à votre public. Comment vous vous protégez des critiques que vous pouvez recevoir ? Je pense notamment aux réseaux sociaux qui peuvent parfois être violents. Comment vous vous protégez de ça ?
Je ne me protège pas assez bien. Il faudrait ne pas les lire. J'ai des amis qui sont dans le métier, tout ça, qui en reçoivent beaucoup plus de moi. Je pense à des amis qui sont juifs. Eux, quand ils voient ce que je reçois, moi, ils me disent « Mais si tu savais ce que nous on reçoit ?» Et quand ils me montrent, c'est terrifiant, terrifiant. On ne peut pas s'en douter, quoi. Enfin, et donc, moi, à côté, c'est l'île aux enfants. Mais il faut se dire que ceux qui balancent des choses violentes doivent être tellement mal dans leur peau. Alors,
je ne peux pas vous croire quand vous dites ça, mais connaissant votre sensibilité et tout
oui,
ça,
que ce qu'il faut,
c'est
pas les lire.
Un peu facile
en fait,
de dire.
Ouais.
Vous voyez ce
mais
que
j'ai
vous...
envie de répondre. Souvent, j'ai envie de répondre. Je l'ai
vous
fait
le faisiez au début.
Parfois,
hein,
voilà, mais ça ne porte jamais ses fruits.
Ça vous bouffe pas la vie par moment, genre le soir quand vous vous endormez, vous allez faire un tour sur les réseaux sociaux
si,
et vous vous endormez en vous disant mais c'est pas possible,
c'est
en fait, pourquoi ?
Quand je suis sur les réseaux sociaux, quand je vais voir par exemple, alors maintenant il y a Instagram où les gens sont plutôt mieux pensants, c'est surtout Facebook qui est une plaie, mais il y a aussi des gens qui nous aiment, c'est ça qui est difficile.
Oui, mais qui se montrent moins.
Mais qui se montrent moins, parce qu'ils en ont marre de lire les commentaires de ceux qui sont méchants. Et donc c'est pour ça que moi Facebook, peut-être je disparaîtrai de Facebook à un moment donné. Là vraiment, si je reste, c'est pour faire plaisir à ceux qui m'aiment. Mais sinon, moi j'en ai pas besoin. D'ailleurs pour le métier, j'en ai pas besoin, très honnêtement.
Non mais vous n'en avez pas besoin, mais en plus c'est un côté néfaste.
Mais c'est vicieux, on va dessus. Et ce que j'aime pas, je vais vous dire, c'est quand je lis un commentaire, ou deux, ou trois, ou dix négatifs, méchants. Négatif c'est une chose, méchant, et gratuitement méchant, injuste. Quand je lis ça, et que mon visage se lève et que je tombe sur... un de mes enfants, je me dis, mon Dieu, comme c'est deux mondes différents. Ces enfants qui me regardent, qui m'aiment, qui je l'espère, m'admirent de temps en temps, qui sont des enfants normaux, finalement. Et là, je baisse la tête sur mon téléphone et sur ce qui est écrit là, je me dis, c'est pas possible. Mais ça me donne la force d'éteindre le téléphone. D'ailleurs, je ferais mieux de passer du temps avec mes enfants, parfois, que sur le téléphone, sur les réseaux. Alors, je me suis posé la question, est-ce que je m'en vais des réseaux ? Parce que, très honnêtement, pour bien vivre, j'en ai pas besoin.
Je voudrais qu'on termine rapidement avec une chose. Je me rappelle, quand vous étiez petit, vous regardiez la télé, l'image que vous aviez des artistes était que c'était des gens tous riches, qui faisaient du cheval, qui allaient au ski. Vous pensiez qu'il n'y avait pas de soucis, pas de problème. Aujourd'hui, vous comprenez que certains pensent ça de vous, justement ?
Oui, mais sauf que quand moi je pensais ça d'eux, je les admirais. Aujourd'hui, quand les gens pensent ça des artistes ou des footballeurs, même, c'est en les dénigrant. Moi, quand j'étais petit, les gens qui avaient de l'argent, que je croyais avoir de l'argent en tout cas, parce que tout le monde n'en a pas toujours comme on croit, je les admirais. Je ne disais pas c'est un con parce qu'il a de l'argent, je disais oh, comme j'aimerais faire comme lui.
Merci Franck Dubosc. Vous passerez notre bonjour à votre proctologue, docteur Troukissan.
Oui, un arménien, docteur Troukissan, celui que j'appelle mon architecte d'intérieur.
Merci à vous tous de votre fidélité. Si vous êtes en région parisienne et que vous avez envie de vous faire une petite sortie, courez voir 50-50. C'est jusqu'au 14 avril au Palais des Sports de Paris, francebleu.fr pour réécouter cette émission ou vous abonner au podcast. C'est possible aussi sur l'application France Bleu. Passez un bon week-end. Salut.